Nous ouvrons maintenant nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, déjà évoqué au tout début de notre cours. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Avez-vous suffisamment de lumière, chers amis, de ce côté? Parce qu'on peut, même si on fait des économies, les yeux doivent bien fonctionner quand même, hein? Donc si pour quelqu'un c'est un problème, on allume simplement aussi de ce côté. Voilà. Alors dans Romains au chapitre 8, je lis avec vous et pour vous les versets 5 à 7. Romains 8, versets 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionne ou pense aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent ou pensent aux choses de l'esprit. Et les affections ou les pensées, les préoccupations, les aspirations de la chair, c'est la mort. Tandis que les pensées, les affections, les préoccupations, les aspirations de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dans l'épître suivante, la première aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 12 à 16. 1 Corinthiens 2, 12 à 16, où Paul prend le contre-pied de la mentalité qui prévalait à Corinthe en matière d'art oratoire, de développement de la pensée, de la philosophie religieuse en particulier, parce qu'il était dénigré, étant donné qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que la pensée prédominante dans cette grande cité de Corinthe. Et il dit au verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alors je précise ici que le terme jugé doit être bien compris ici, tout simplement parce que là aussi, nous avons, à partir d'une racine, toute une série de termes qui abordent le jugement sous des angles complémentaires. Et ici, le terme jugé évoque eh bien un juge qui est en train de décortiquer des affaires, d'établir, de constituer un dossier, d'accumuler des preuves. Bref, il veut avoir un dossier solide avant que ne commencent les séances du tribunal qu'il va présider. Vous voyez, c'est donc quelque chose qui ne rejoint pas d'abord cette pensée du jugement destructeur qui est aussi présente dans les Écritures. Ce jugement sans le « à l'intérieur du mot « jugement » de l'amour, n'est-ce pas? Il y a « juger » dans le domaine de la destruction, il y a jauger avec cette dimension de l'évaluation pour pouvoir ensuite mieux aider à détruire ce qui doit être détruit et à construire ce qui doit être construit. Alors je termine ce texte, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et nous sommes ici en présence de ce tout petit mot, nous, que nous avons encore évoqué hier, et déjà dans notre introduction dimanche matin, puisqu'il figure dans Romains 12, verset 2, n'est-ce pas, le renouvellement du nous, de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, de la mentalité, du jugement, toute une variété de termes qui font partie du programme de cette petite expression. Et enfin, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 6, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, chapitre 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas d'origine charnelle, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un jour, un horloger vit entrer dans son magasin un homme qui, il faut le dire, n'avait pas l'air très intelligent. Cet homme sortit de sa poche un petit papier soigneusement plié, duquel il tira les aiguilles d'une montre. Et il regarde l'horloger et laconiquement lui dit « Monsieur l'horloger, il faut me les réparer. Elles ne marchent plus. » L'horloger est quelque peu stupéfait et demande « Mais où est donc la montre ?»« Il me faut la montre. Je ne peux faire marcher les aiguilles sans avoir toute la montre. »« Oh, monsieur, reprend le client, la montre n'a rien. » Elle va très bien. Ce sont les aiguilles qui se sont arrêtées qu'il faut réparer. Et l'homme était têtu, il répétait sans cesse, ce sont les aiguilles, monsieur, ce sont les aiguilles. Et l'horloger eut beau lui prodiguer des explications, il ne voulut rien entendre. Alors, vous ne voulez pas réparer les aiguilles? Mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas, mais que pour cela, j'ai besoin de toute la montre. L'homme secoua la tête, reprit les aiguilles, les replia soigneusement, sortit du magasin en grommelant et en claquant la porte, et dans la rue, il arrêtait les passants et leur disait en montrant la boutique de l'horloger, « N'allez pas chez cet horloger, il ne connaît rien à son travail. Il n'a pas voulu réparer les aiguilles de ma montre. » Cher bien-aimé, j'ai peur que dans plus d'une circonstance, nous ne soyons pas plus intelligents que ce cher monsieur. Eh oui. Mon fils, donne-moi ton cœur, disent les Écritures. Donne-moi ton cœur. Pas d'abord les mains, les pieds et tout le reste. Pas d'abord les œuvres. Mais le cœur. Et il n'y a pas que ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ qui ont le raisonnement de ce client potentiel avec ses aiguilles. C'est quelque chose qui nous colle à la peau, au-delà de ce moment qui est le tournant capital et indispensable dans notre existence qu'est la nouvelle naissance. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Du cœur au regard, du regard au cœur. Et nous aurons l'occasion, d'ici demain soir, de voir l'importance du regard. Du regard non seulement physique, mais au-delà du regard physique, du regard intérieur. Parce que la Bible parle de ce regard intérieur au niveau des pensées de manière abondante. Le cœur d'abord, le corps ensuite. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit l'Éternel, par la bouche du prophète Ézéchiel en des circonstances tellement sombres. Et ce même prophète, nous l'avons vu, c'était notre conclusion hier. Faites-vous un cœur nouveau, dit-il, et un esprit nouveau, comme s'il voulait nous dire, pas de passivité. Pas de passivité. Je ne le disais pas, mais en abordant brièvement le thème de la sophrologie dans l'égarement des pensées humaines, nous aurions pu souligner qu'un des dangers fondamentaux de la sophrologie, c'est que vous devez vous livrer corps et âme entre les mains du sophrologue. C'est-à-dire que vous devenez un être passif. Si vous n'acceptez pas d'entrer totalement dans son jeu, ça ne marche pas. Et s'il y a quelque chose que Dieu a en horreur, et il nous le dit dans les Écritures, c'est bien de la passivité, parce qu'elle est la porte ouverte à toutes les activités destructrices de la puissance des ténèbres. Donc il n'est pas nécessaire de connaître le tout de la sophrologie, le tout des rosicruciens, le tout de la franc-maçonnerie, le tout de tant et tant de sectes déviantes par rapport à la parole de Dieu. Quelques principes, dont celui-ci, sont éminemment pratiques pour dire « je n'en veux pas » parce que je ne veux pas me livrer, me donner à quelqu'un d'autre qu'au Dieu que je sers parce qu'en lui seul j'ai confiance, il n'abusera jamais de moi. La clé fondamentale, c'est donc de donner au Saint-Esprit, selon les Écritures, le contrôle de ce quartier général de nos individualités. Mon cœur doit être dominé par le Saint-Esprit. Il me faut remettre positivement au Seigneur le contrôle de ma volonté, de mes pensées, de ma tête, donc de mon intelligence, de mes affections. Nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ, dit 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, nous venons de le lire. C'est extraordinaire, mes bien-aimés, de penser cela. Des scientifiques français ont réussi à faire crier des poulets comme des cailles, en prélevant des tissus de la partie du cerveau de la caille japonaise, ces japonais sont partout, censé contrôler le cri de l'oiseau, et en l'implantant dans le cerveau de 5 embryons de poulet. Et les chercheurs disent que les poussins crient comme des cailles. Ô combien pâle, et je dirais sinistre exemple, si on allait dans son application au-delà, n'est-ce pas, mais bien pâle exemple de cette implantation spirituelle en nous. Dieu a implanté l'Esprit de Christ en ceux qui ont accepté son Fils comme leur sauveur. Et en implantant l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de Jésus, puisque même le Saint-Esprit est appelé deux fois dans les Écritures de cette manière, Dieu nous a donné cette nouvelle capacité, possibilité, ce nouveau potentiel extraordinaire qui consiste à penser, à parler et à agir de plus en plus comme Christ lui-même. Un commentateur de ce beau texte de 1 Corinthiens 2 écrit ceci. L'apôtre Paul ne parle pas seulement de la pensée renouvelée, mais aussi de la pensée de Christ. C'est ainsi qu'il exhorte les Philippiens à avoir en eux la pensée qui était en Christ Jésus. Philippiens 2, 5. Lorsque nous étudions l'enseignement du Seigneur, contemplons son exemple, plaçons notre pensée sous le joug de son autorité de façon consciente, Matthieu 11, 29, nous nous mettons petit à petit à penser comme il a pensé lui-même. Par l'action de l'Esprit Saint, Esprit de Christ, sa pensée prend forme en nous. Nous voyons alors les choses comme il les voit. Nos conceptions s'accordent aux siennes et nous osons presque dire à la suite de l'apôtre, nous avons la pensée de Christ. Nous sommes donc appelés à nous conduire en homme spirituel, nous dit ce texte, c'est-à-dire en homme et en femme conduit par le Saint-Esprit, et non en homme charnel. Et c'est toute la suite de 1 Corinthiens 3 qui l'évoque en homme qui se laisse conduire par celui que la maréchale Booth, on l'appelait la maréchale, appelait l'hippopotame, moi. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et nous n'avons pas besoin de longues leçons doctrinales pour réaliser ce que signifie dans les Écritures la chair quand il ne s'agit pas du sens premier, hein, les parties molles du corps humain en quelque sorte, mais de cet homme naturel qu'on appelle aussi le vieil homme ou la vieille nature qui, évidemment, a été crucifié avec Christ, et dans les Écritures, c'est un aoriste, là c'est fait une fois pour toutes à la croix, mais qui pourtant, nous disent par ailleurs les Écritures, a besoin d'être en permanence maintenu sur la croix. Parce que, crucifié, il est comme ce poulet qu'un jour, dans les montagnes du Liban, où nous passions entre le Liban et la Syrie, quelques semaines, il y a quelques années, en nous promenant, simplement faisant quelques pas dans la montagne, à proximité de quelques maisons, j'ai vu, mais tout juste du côté, sans vraiment saisir exactement ce qui se passait, subitement, un geste violent. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait là quelqu'un à proximité, et un poulet qui partait. Le poulet partit comme un avion aux ailes étalées. Dans un premier temps, c'était encore à peu près horizontal. Et puis, un petit peu comme l'avion qui va partir en vrille, il a commencé à partir dans tous les sens, à droite, à gauche. Les ailes se sont penchées de plus en plus. Et finalement, le poulet s'est effondré dans une espèce de dernier soubresaut impressionnant. Il n'avait plus de tête. Et en fait, ce que j'avais deviné dans ce geste, c'était son patron qui lui avait donné le coup de grâce. Il lui avait tranché la tête. Ah, mes amis, nous gigotons depuis que la croix a été appliquée à notre vie, depuis notre nouvelle naissance. Le vieil homme a tendance à avoir envie de sortir de son cercueil. Il me souvient, il y a un certain nombre d'années, d'une série d'enseignements donnés au cœur de la Côte d'Ivoire, et nous étions sur une station missionnaire qui avait une particularité dont je me souviendrai le restant de mes jours. C'est qu'on pouvait voir ici et là, un petit peu partout sur cette station, assez importante, des cercueils, bien entendu vides, qui était posé contre les murs des maisons en dur de cette station. Et j'étais intrigué, et je me suis renseigné, et j'ai ainsi appris que la fabrication et la vente de ces cercueils permettaient le développement du travail missionnaire, de l'aide aux habitants, cette manière d'enseigner l'Évangile en faisant connaître d'autres dimensions. C'était très solennel. Et il se trouve qu'on m'avait demandé d'aborder les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et nous étions dans Romains chapitre 6, et je n'ai pas pu résister à l'envie, pendant une entracte dans un des cours, qui était généralement très long d'ailleurs, il n'a pas de problème de temps chez eux, et pendant cet entracte, j'ai avisé deux jeunes, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous pourriez me rendre un service? C'est d'aller me chercher un de ces cercueils. Alors ils ont amené le cercueil, ils l'ont apporté, ils l'ont placé au pied du pupitre, comme lors d'une cérémonie d'ensevelissement dans un bâtiment d'église, n'est-ce pas? Et je n'ai pas osé aller plus loin. J'avais envie d'aller plus loin. C'est-à-dire de dire à l'un d'entre eux, écoute, mets-toi dedans, je ferai tout pour que tu en sortes le plus vite possible, mais au signal donné, tu feras bouger le couvercle. Mais on respecte quand même tout un arrière-plan culturel, en particulier pour ceux qui sont récemment convertis à Jésus-Christ ou ceux qui ne le sont pas encore. Donc j'ai compris intérieurement que le Seigneur disait ne va pas plus loin, n'est-ce pas? Mais vous avez compris, c'est là que nous sommes appelés à vivre dans nos vies la croix, parce que la chair remonte si facilement sur le trône. Un homme de Dieu a écrit ceci. Le royaume de Dieu constitue, à vrai dire, un règne totalitaire. Contrairement aux systèmes humains qui doivent se contenter d'une conformité extérieure, le royaume de Dieu s'étend jusque dans nos pensées les plus secrètes. Il n'y a pas une pensée qui traverse notre esprit sans qu'elle suscite l'approbation ou la désapprobation du royaume. Est-ce que nous entendons cela dans l'inflation de la parole aujourd'hui? Est-ce que nous pesons ces mots? Oh, je ne vous cache pas, mes bien-aimés, sans en dire davantage, le nombre de fois où avant de prendre la parole sur ma chaise, j'ai dit, écoute Seigneur, oh, efface encore cette pensée-là qui ne te glorifie pas. Et je ne m'étonne pas de ce qu'un cher serviteur de Dieu disait qu'il ne prenait jamais la parole pour annoncer le plan de Dieu sans dire « je crois au Saint-Esprit, je compte sur le Saint-Esprit pour me garder dans mes pensées et me guider dans la communication de cette parole. Je crois au Saint-Esprit. » Combien de fois je l'ai dit en me levant, « Seigneur, je crois à ton esprit. » Quel est, eh oui, quelle est la signification pratique de tout cela? Revenons, mes bien-aimés, dans nos pensées à l'essentiel. Vous voyez notre problème de pensée? Combien vite? Hein? Surtout aujourd'hui, vous savez, c'est pas pour rien que, je ne vous fais pas de reproche, je comprends très bien, c'est désagréable. Mais ceci dit, vous voyez, ça c'est notre problème aujourd'hui. Nous vivons une époque où la déconcentration est devenue extrêmement facile. Pour toutes sortes de raisons de surinformation, d'air presse-bouton, de passivité à cause de tous les écrans, etc. Il y a une quantité d'éléments qui jouent dans ce sens. Et c'est pour cela que dans nos églises, nous avons aussi des problèmes. Nous avons une peine féroce à nous concentrer dans le temps. Alors je vous ramène gentiment au cœur de notre sujet, n'est-ce pas ? Cela nécessite un effort de notre part, voyez, cela nécessite un effort de notre part, avec le secours du Saint-Esprit, une discipline permanente, un contrôle continuel, notre volonté est engagée. Cela me frappe, parce que là aussi, dans les courants qui prévalent de plus en plus dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on attache tellement d'importance au fait de laisser aller nos émotions. On a presque peur de l'usage de ces facultés de pensée, de raisonnement. Il faut se laisser aller, il faut être passif. Je pense à certains livres en ce moment, mes amis, de tel ou tel, dans le début d'un livre où le soi-disant serviteur Dieu dit « Si je veux réussir un bon message, il faut surtout que je ne le prépare pas. » Mais mes amis, mais vous savez que dans le Nouveau Testament, simplement l'apôtre Paul, dans le langage inspiré par Dieu, dans cette inspiration qu'on appelle plénière et verbale, dans les mots, et pas seulement dans les idées, Paul va utiliser près de 1000 impératifs. 1000 verbes utilisés à l'impératif. Et mes amis, vous le savez comme moi, l'impératif s'adresse à la volonté. Le christianisme est volontaire. Bien sûr que la croix passe sur notre volonté propre, qui est l'ennemi le plus implacable de notre volonté tout court, n'est-ce pas? Mais ceci dit, le disciple de Jésus-Christ n'est pas une espèce de lapin qu'un braconnier a saisi dans son collet pour lui briser la nuque au moment où il le sort de son piège. Dieu ne nous brise pas la nuque de cette manière. Dieu travaille cette dimension de la chair qu'est la volonté propre, mais la volonté, Dieu va alors l'utiliser à sa manière. Alors, ceux qui sont brisés par la vie, par la possessivité des parents, ou par un caractère aussi qui est un peu lavette, etc., n'est-ce pas, Dieu va travailler de manière à ce que la volonté retrouve sa juste place. Et puis par contre, ceux qui ont développé à cause d'une vie difficile, de gros combats, déjà dans leur enfance, dans leur adolescence, une volonté très très forte, alors Dieu va travailler dans l'autre sens. Il va y avoir toute une activité du Saint-Esprit. Mais souvenons-nous de l'importance de la volonté. Et bien entendu, du secours permanent, de la puissance permanente, la capacité permanente du Saint-Esprit, de tous les moyens de grâce, en quelque sorte, que Dieu met à notre disposition, de manière à ce que notre combat, dans l'usage de notre volonté, ne nous conduise pas à être des gens crispés, agressifs. Parce qu'il est précisément, dans un christianisme très volontaire, des aspects très désagréables. Là, l'usage de notre volonté ne sous-entend pas l'expulsion de tout le domaine de la paix, n'est-ce pas? Je peux être vigilant sans être agressif, sans être sur les dents, n'est-ce pas? Mais simplement par mon intimité avec le Seigneur, dans mes jours et dans mes nuits. Alors nous en redirons quelque chose d'ici demain soir. Importance de prise de position nécessaire, de stratégie et de nouveaux réflexes à mettre en place. C'est un effort, c'est un travail, c'est une vigilance. Romains 12, 2, transcription d'Alfred Kuhn. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. De Corinthiens 10, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Proverbe 4, 23, déjà dans l'Ancien Testament, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ceci a été transcrit de cette manière par-dessus tout. « Veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. » Place des sentinelles, c'est moi qui l'ajoute, des gardes, pour empêcher l'infiltration ennemie. Des apaches avaient capturé le coffre-fort du trésorier de l'armée. Ils n'avaient jamais vu de coffre-fort auparavant, mais ils savaient qu'il renfermait beaucoup d'or. Ils essayèrent donc de l'ouvrir. Ils le frappèrent d'abord sur la poignée ou le bouton de la porte avec des pierres. Ils utilisèrent ensuite leur tomahawk contre la caisse en acier trempé. Lorsque cela échoua, ils firent retirer le coffre, parce qu'ils savaient que le feu ramollit l'acier. Mais cela ne donna pas de résultat. Alors ils jetèrent ensuite ce coffre en bas d'une falaise. Cela ne fit que briser une des roues. Ils le plongèrent ensuite dans la rivière. Ils essayèrent finalement de le faire sauter avec de la poudre à canon, ce qui ne fit que blesser quelques-uns d'entre eux. Complètement frustrés, ils laissèrent tomber le coffre-fort dans un ravin. Lorsque l'armée le trouva, l'or y était encore. C'est notre cœur. C'est notre cœur, ce coffre-fort. Nous avons une combinaison qui, un code, qui ouvre l'être intérieur aux forces envahissantes de l'ennemi. Il est dans les Écritures, il y a toutes sortes de textes qui nous montrent, hélas, comment trop d'hommes dans l'histoire et nous, dans nos vies, nous avons ouvert nos portes à la puissance envahissante de l'ennemi. Mais nous sommes appelés, nous, à garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais bien aimé, si nous redescendons dans la montagne en étant imprégnés de cette pensée, n'est-ce pas, envahissante, que notre cœur doit être gardé plus que toute autre chose, nous pouvons continuer loin avec le Seigneur. 1 Pierre 1, 13, 14, j'essaye d'accumuler en avocat des Écritures, des textes. 1 Pierre 1, 13, 14, un des premiers tournants de cette première épître de Pierre que nous avons analysé partiellement ici lors d'un cours précédent. C'est pourquoi, 1 Pierre 1, 13, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Traduit autrement, affermissez votre pensée. Rassemblez vos pensées et vos énergies. Mettez en quelque sorte une ceinture autour des reins, de vos reins, pour tenir emprisonnée la tunique de vos pensées. Voilà ce que Pierre dit à ces églises qui étaient peut-être au nombre d'une centaine, dans une grande partie de la Turquie actuelle, mais à cette époque, dans les années 64-65, alors qu'il se passait déjà à Rome des choses douloureuses pour l'Église de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Et armez-vous, c'est vraiment, dans le grec, un terme militaire. Soyez comme des soldats qui sont dans le combat. Armez-vous de la même pensée, ayez les mêmes dispositions d'esprit. Quelqu'un, hier, dans un moment d'échange, évoquait Blaise Pascal. Et je lui disais, eh bien, je dirai quelques mots de Blaise Pascal demain matin. Travaillons donc à bien penser, c'est le principe de la morale, disait Pascal, qui disait par ailleurs, l'homme est visiblement fait pour penser, c'est un roseau pensant, c'est toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser comme il faut penser. Vous avez compris le problème. Alors, il s'agit de ne pas se laisser conduire par ses pensées subjectives, par exemple, en les prenant pour la pensée de Dieu. Je suis très très frappé de voir combien il est facile, dans une espèce de hyper-spiritualité, de prendre pour pensée de Dieu ce qui ne sont en réalité que les pensées de notre propre fond, parfois même de la puissance des ténèbres. Vous savez, les gens qui me disent « Dieu m'a dit que », c'est dangereux, hein? Parce que lorsqu'on s'autoproclame prophète, on devrait juger comme les prophètes devaient être jugés dans l'Ancienne Alliance. Exécutés. Si ce qu'ils proclamaient ne se réalisait pas. mes amis. Un serviteur de Dieu raconte ceci. Un de mes étudiants a vécu une expérience qui illustre combien les pensées de Satan peuvent être trompeuses. Un jour, il est venu dans mon bureau et m'a dit « Ça ne va pas chez moi. »« Quel est ton problème ?» lui ai-je demandé. « Eh bien, quand je veux me mettre au travail, je ressens des fourmillements sur tout le corps, mes bras se lèvent tout seuls, ma vue devient trouble et je n'arrive pas à me concentrer. Ah. » « Parle-moi de ta vie spirituelle. »« Oh, j'ai une vie spirituelle très proche de Dieu !» déclare fièrement notre ami. « Qu'est-ce que tu entends par là ?»« Eh bien, en sortant de la faculté à midi tous les jours, je demande à Dieu où il veut que j'aille manger. S'il me vient une pensée qui dit « McDonald's », je vais au McDonald's. Ensuite, je lui demande ce qu'il veut que je mange. S'il me vient la pensée de commander un Big Mac, je commande un Big Mac. » Joe, qu'en est-il de ta vie d'église? Chaque dimanche, je vais là où Dieu me dit d'aller. D'ailleurs, les trois derniers dimanches, Dieu m'a dit d'aller dans une église mormone. Alors, bien sûr, les mormons, je pense que tout le monde réalise qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Hein, et c'est un euphémisme, une manière faible de dire des choses graves, même si par ailleurs, dans certains domaines, ils sont un défi que l'Église de Jésus-Christ devrait relever dans certaines qualités de vie. Nous devons donc veiller à ne pas laisser à nos pensées la bride sur le cou. Attention au développement de mauvaises habitudes de pensée qui finissent par modeler notre comportement et nos actions. Victor Hugo, dans un poème intitulé « Dieu », écrit ceci « Redressant votre cœur aussitôt qu'il dévie. » Redressant votre cœur aussitôt qu'il dévie. C'est un des secrets de la vie chrétienne. À cause de nos tendances permanentes au déséquilibre. Continuellement, nous sommes tentés de partir à droite ou à gauche. Loin, de plus en plus loin de cet équilibre qui n'existe que dans ce centrage permanent sur le Christ des Écritures. Nous sommes d'une extrême fragilité jusqu'à la fin de nos jours dans ce domaine. Nous quittons aisément la dépendance du Christ des Écritures pour partir vers des extrêmes. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, à cause de toutes les pressions que nous subissons en permanence, nous dévions beaucoup plus rapidement que jamais auparavant, entraînés par les courants de notre monde. Donc cette pensée de Victor Hugo est tellement biblique, redressant votre cœur aussitôt qu'il dévie. Regardez ce que peut donner le résultat des pensées et des réactions à longue durée. Quelqu'un a donné cette illustration remarquable. Imaginez, par exemple, trois garçons de 18, 13 et 9 ans, dont le père devient un alcoolique. Quand le père rentre à la maison saoul et agressif, tous les soirs, le fils aîné, qui est assez grand pour tenir tête, dit à son père « Si tu me cherches, tu vas le regretter ». Le deuxième fils ne peut pas résister à son père physiquement et il devient le conciliateur classique. Il essaie de l'apaiser. Il l'accueille en disant « Salut papa, comment vas-tu? Je peux t'apporter quelque chose papa? Veux-tu que j'appelle quelqu'un ?» Le dernier a tout simplement peur. Quand son père rentre à la maison, il court se cacher dans le placard et sous le lit. Il fuit son père, il évite tout conflit. Alors que les trois garçons continuent à adopter ces réactions défensives face au comportement hostile de leur père alcoolique, ils forment des habitudes de comportement. 10 ans plus tard, quand ces jeunes gens rencontreront n'importe quel comportement hostile, comment croyez-vous qu'ils réagiront? L'aîné se battra, le second apaisera, le troisième fuira. Cette manière qu'ils ont appris à faire face à l'hostilité leurs habitudes de pensée et de réaction fortement ancrées exercent une emprise sur eux. Et voyez-vous, c'est pour cela que ce qui est merveilleux, c'est que cette apparente fatalité est dans l'esprit de nos contemporains. C'est une fatalité. Ils vous diront, je suis comme ça. Nous le savons, nous, et rompus, brisés par l'irruption du Christ qui nous empoigne, qui nous saisit complètement et qui nous remplit de son esprit à la nouvelle naissance. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout soit réglé. Et nous pouvons dans une quantité de domaines, et c'est trop souvent ce qui arrive, dans notre vie ensuite avec Christ, continuer à perpétuer des raisonnements que nous avions auparavant, mais simplement nous leur mettons une petite couche religieuse évangélique. N'est-ce pas ? Et nous avons des conflits au niveau de l'amour, parce que bon, nous avons pris l'amour que nous connaissions dans le monde, n'est-ce pas ? Nos valeurs d'amour. Et simplement nous le sublimons, nous le colorons, nous lui donnons des versets bibliques, nous effectuons quelques petits changements, mais sans que véritablement quelque chose se passe en profondeur dans ces ornières de pensée qui étaient nôtres déjà. Pendant longtemps même avant notre conversion. Quelqu'un a dit, les habitudes qui commencent comme des fils d'araignée se transforment parfois en câbles, des câbles. Je ne sais pas si nous réalisons l'importance de ce que nous disons. De ces câbles dont je suis absolument persuadé, nous voyons l'endroit où ils sont. Parce que nous pourrions, si nous étions longtemps ensemble, prendre toute une galerie de portraits dans les Écritures pour voir comment ces ornières de pensée ont joué des tours à des hommes et à des femmes de Dieu. Comment Dieu a dû travailler pour que précisément ces systèmes de pensée complètement erronés soient progressivement réduits à néant et remplacés par de nouveaux sillons. Les sillons de la pensée de Dieu dans l'esprit. J'ai sous les yeux un de ces exemples des habitudes. Habitudes liées parfois à des fausses doctrines aussi. Dans une église protestante du Danemark, les fidèles qui passaient dans une aile de ce bâtiment d'église se tournaient toujours vers un mur blanchi et faisait une révérence en passant. C'était ainsi depuis des siècles, sans que l'on puisse donner une explication logique à cette habitude. Et le responsable, ou les responsables qui s'étaient succédés, avaient posé la question à ces personnes, en disant, mais pourquoi est-ce que vous faites la révérence ? Mais parce qu'on l'a toujours fait dans le passé, n'est-ce pas ? Et puis, un jour, des gros travaux de restauration de l'intérieur de cet édifice furent entrepris et on découvrit sous ce blanchiment superficiel du mur un tableau d'avant la réforme qui représentait la Vierge Marie. Ce qui fit dire à quelqu'un que la tradition catholique avait survécu à des siècles de blanchiment protestant. Dans un des livres de Philippe Keller, ce berger, vous verrez les quatre ouvrages, mais sans doute que mon excellente collaboratrice Jacqueline évoquera ces livres, et vous pourrez lire dans l'un d'entre eux ceci. Les brebis sont des créatures aux habitudes fortement ancrées. Si elles sont laissées à elles-mêmes, elles suivent les mêmes pistes jusqu'à les creuser d'ornières, broutent les mêmes herbages jusqu'à les épuiser, polluent leur propre terrain jusqu'à les corrompre par la maladie et les parasites. Plusieurs pâturages des plus réputés ont de la sorte subi une ruine définitive du fait de propriétaires ignorants ou indifférents qui les ont fait brouter trop longtemps et n'ont pas su diriger leurs troupeaux. Tout comme les brebis se suivent aveuglément, l'une l'autre par habitude et stupidement tout au long des mêmes pistes, jusqu'à ce que celles-ci se transforment en sillons profonds et en crevasses. De même, nous humains, Nous nous accrochons aux mêmes habitudes que nous avons vues ruiner d'autres existences. Et cela pénètre dans l'Église. Et des églises se divisent à cause de la confrontation de courants d'habitudes qui ont duré, qui ont perduré. Puis une nouvelle génération est venue qui a apporté elle-même ses propres habitudes. Et hélas, on ne se rejoint pas sur le seul terrain qui puisse nous unir, mais celui de la parole de Dieu lue et relue avec simplicité sous l'autorité du Saint-Esprit. Oh, notre cher frère Pierre d'Espagne va évoquer avec son cœur Israël qui a été au cœur de son ministère pendant des dizaines d'années. Et je pense ici à l'un des tristes refrains qui jalonne les 23 premiers chapitres de Jérémie. C'est un de mes livres bibliques de l'Ancien Testament parmi les préférés. Et pourtant, il m'a fallu le lire et l'étudier, le relire et l'étudier encore pendant des années avant que subitement ne saute aux yeux de mon cœur ce refrain qui commence dans Jérémie au chapitre 3 et au verset 17. Jérémie chapitre 3 verset 17. C'est une promesse pour l'avenir. Et ceci se passe au début du règne de Josias. Jérémie, ils sont à peu près du même âge, pas très loin en tout cas, et ils font équipe l'un avec l'autre. Josias va vraiment s'appuyer sur le ministère de Jérémie, et nous avons là ce qui se passe donc dans les coulisses, derrière le ministère de Josias. J'en parle dans mon livre consacré à Daniel. Et au verset 17, Jérémie dit de la part de Dieu, en ce temps-là, donc verset 3, en ce temps-là, chapitre 3, Jérémie, chapitre 3, verset 17, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. D'autres traductions mettront, elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur. C'est-à-dire les ornières de pensée. Alors moi j'ai mis un petit 1 à côté, une flèche qui renvoie à une deuxième citation, chapitre 7, verset 24. 7, 24. Et dans 7, 24, que dit Jérémie ? 7, 24. Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Vous avez, je crois, écoutez, il me semble que c'est entre 130 et 140 affirmations qui sont pratiquement celles-ci dans le prophète Jérémie. Le problème de l'écoute est écouté en hébreu, en particulier, tout comme dans le Nouveau Testament, dans le domaine de... Oui, le terme peut être utilisé dans le même sens, c'est obéir. Hein? D'obéir. Obéir dans le Nouveau Testament, c'est up akuo. Akuo, c'est écouter. Up, c'est se mettre upo, c'est se mettre en dessous. Je me mets sous l'autorité de celui qui me parle. Et si je me mets sous l'autorité de celui qui me parle, alors j'accepte de faire ce qu'il me dit. Vous voyez, il y a un lien entre l'écoute et l'obéissance. Et dans Jérémie, c'est en permanence, il veut dire, votre drame, c'est que vous n'avez voulu, pas voulu seulement, non seulement vous n'avez pas voulu entendre même, mais vous n'avez pas voulu écouter de tout votre cœur pour obéir. Ils ont suivi l'obstination de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Donc ici, les termes utilisés vont tout à fait dans ce sens de l'usage des pensées. Alors, vous avez ensuite chapitre 9, verset 14, chapitre 11, verset 8, chapitre 13, verset 10, chapitre 16, verset 12, chapitre 18, verset 12. Celui-ci, je vous le donne parce qu'il est aussi intéressant, chapitre 18, verset 12. Je prends le verset précédent, verset 11. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, « Mais c'est en vain, ça sert à rien, car nous suivrons nos pensées ou nous suivrons nos idées. Nous agirons chacun selon les pensées de notre mauvais cœur ou selon l'obstination de notre mauvais cœur. » Et si vous ajoutez encore chapitre 23, verset 17, ce qui est quand même curieux, hein, c'est que dans ces 23 premiers chapitres de Jérémie, vous avez 7 passages qui traitent exactement de ce même sujet. 7 fois. Et mes amis, dans les Écritures, le 7 est un chiffre symbolique. 7 fois. Ils étaient arrivés pour le royaume du sud, avec ce petit royaume de Juda, au sommet de la non-écoute de Dieu. Ils étaient désormais complètement enfermés, emprisonnés dans les ornières d'un système de pensée qui les avait sclérosés, qui les avait endurcis. Et c'est ce qui fait, par exemple, que dans le psaume 81 au verset 13, il est écrit « Ils se sont conduits selon leur raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. » Ils se sont conduits selon leur raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. Ça c'est 7:24. Alors je regarde le psaume 81 verset 13. Psaume 81 verset 13. Alors, vous voyez, ça c'est le résultat. Alors, je les ai livrés à l'obstination, au penchant, aux pensées de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Vous savez, la vie rétrograde, c'est aussi ce mécanisme. Le mécanisme de l'endurcissement chez le rétrograde est exactement celui-là. Vous avez le même mécanisme chez celui qui refuse de recevoir le Christ dans sa vie au pied de la croix et qui peu à peu persiste à rester dans ses ornières de pensée qui sont suicidaires, n'est-ce pas? Alors la grâce de Dieu, heureusement, est toute puissante, mais il arrive un moment où il doit y avoir l'action de la foi, n'est-ce pas? Mais après, dans la vie chrétienne, la vie rétrograde, c'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Peu à peu, on résiste, on résiste, on résiste, et on se fabrique même un système de pensée qui devient ornière de pensée, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où ça fait mal, parce que Dieu intervient encore, et heureux celui qui revient vraiment au Seigneur, le plus rapidement possible, mes bien-aimés, le plus vite possible. Redresser le plus vite possible. Dans 2 Corinthiens 3:14, il faut que je m'arrête, 2 Corinthiens 3:14, et toujours concernant le peuple d'Israël, Paul dira, ils se sont endurcis dans leur pensée. Ils se sont endurcis dans leur pensée. 2 Corinthiens 3:14, on pourrait traduire, ils se sont pétrifiés, ils se sont solidifiés, ils se sont fossilisés. Le terme est utilisé dans le langage grec pour évoquer les stalactites et les stalagmites, chers amis, les concrétions. Il est là, le terme. Alors il y a les concrétions, les stalagmites et les stalactites de la caverne de celui qui n'est pas encore en Christ, mais il y a aussi les stalagmites et les stalactites dans la vie chrétienne chez le rétrograde. Tout ce travail d'éloignement progressif, d'emprisonnement dans des systèmes de pensée qui nous rendent de plus en plus captifs, des forteresses de mauvaises pensées et de raisonnements. Alors nous nous arrêtons là. Et je voudrais simplement vous donner deux indications d'ordre pratique pour ceux qui aiment lire, qui veulent aller plus loin dans ce domaine. Tout d'abord, dans le livre Barnabas, tu m'encourages, vous trouverez 2 ou 3 chapitres qui tournent spécialement autour de ce thème, notamment de ce qu'on peut appeler et ce que j'appelle la sclérose. du regard intérieur, la fixité du jugement, la fixité de la pensée, ça a été un drame dans l'église de Jérusalem. Lorsque 3 années après sa conversion à Christ sur le chemin de Damas, alors qu'il était parti pendant un certain temps dans le désert d'Arabie, finalement, parce qu'il aimait l'église de Jésus-Christ, que Dieu l'appelait à vraiment s'identifier à l'église de Jésus-Christ, à Jérusalem aussi, il s'était identifié tout de suite après sa conversion à celle de Damas. Il est allé à Jérusalem. Mais l'église avait peur de lui. Et il est dit que tous le craignaient. Tous le craignaient. Pourquoi ? Parce qu'il se souvenait que, avant sa conversion radicale sur le chemin de Damas, il avait été, par ignorance, le champion dans le domaine de la persécution de l'église de Jésus-Christ. Et dans cette église de Jérusalem, il y avait des hommes et des femmes qui pouvaient rabaisser une partie de leur tunique pour montrer à ceux qui auraient été incrédules les marques des coups de fouet et de tout ce qu'ils avaient souffert, parce que un certain Saul de Tarse, dans sa haine terrifiante du christianisme, les avait fait jeter en prison. Ils avaient peur. Et même quand Dieu intervient dans la vie d'un certain Ananias, membre de l'église de Jésus-Christ à Damas, nous sommes allés aux portes de la maison d'Ananias, nous avons passé du temps dans la fameuse rue droite, c'était très intéressant. Et Ananias, quand il lui a dit « Tu vas aller dans cette rue à tel endroit parce qu'il y a un certain homme qui s'appelle Saul, etc. » Ananias a dit mais Seigneur, t'es pas au courant ?» T'es pas au courant ? Tu me demandes d'aller vers lui, mais tu ne sais pas tout le mal qu'il a fait. Et Dieu a dû l'arrêter, l'interrompre. Il dit, va ! Arrête ! Je suis au courant ! J'en sais plus que toi, n'est-ce pas ? Tout le problème de la sclérose des pensées. Et vous savez qui est intervenu pour débloquer la situation ? Parce que c'était dur, hein, c'était difficile pour Saul de Tarse, converti à Jésus-Christ depuis 3 ans, d'être un SDF, hein, rejeté à l'extérieur de cette église de Jérusalem à laquelle il voulait absolument s'identifier, et réalisant que l'église était devenue une église hérisson, porc épique. Tout le monde s'était durci, c'était une église en béton. Il y avait unanimité, mes amis. On avait peur, on ne voulait pas. Ah, mes amis, hein. Même dans nos églises locales, il peut y avoir des unanimités qui ne plaisent pas à Dieu. Et heureusement, il y avait Barnabas. Et Barnabas, il avait peur, puisqu'il est dit que tous avaient peur. Mais Barnabas a certainement présenté sa peur à Dieu. Il a dit, Seigneur, j'ai peur. Je sais qui est Saul de Tarse, parce que lui, il était lévite d'origine. Hein? Mais Seigneur, je ne peux pas simplement m'appuyer sur ma peur pour maintenir un jugement qui est peut-être faux. Je ne peux pas faire ça. Parce que si jamais, en tant qu'église de Jérusalem, nous nous trompons au sujet de Saul de Tarse, c'est grave. Si jamais il est véritablement un enfant de Dieu, alors, le laisser en marge de l'église est extrêmement coupable. Alors Seigneur, eh bien je vais essayer d'enfoncer un coin dans cette dureté de l'église locale. Seigneur, je vais chercher pour trouver où est Saul. Je vais aller frapper à sa porte. Je vais entrer dans l'antre du léopard. Et je vais l'écouter. Je vais l'interroger. Et c'est ce qu'il a fait. Vous le verrez dans Acte 9, versets 26-27. Je ne fais que résumer parce qu'il faudrait du temps, n'est-ce pas ? Et il a écouté, il a interrogé. Et j'imagine qu'à un moment donné, ils se sont serrés l'un contre l'autre avec amour et avec effusion. Parce que dans le cœur de Barnabas, il y avait ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Voilà, tu as en face de toi un véritable frère. Et Barnabas, le texte grec est très beau parce qu'il sous-entend que c'est quelque chose comme si Barnabas avait pris Saul de Tarse par la main pour l'amener vers des responsables, vers l'Église. Et puis il n'a pas dit à Saul, « Saul, maintenant tu vas donner ton témoignage. » Il lui a dit « Tais-toi. » Et ça devait être difficile. Il était tellement embrasé par tout ce qui s'était passé dans sa vie. Il a dit « Tais-toi. » J'imagine, puisque le texte dit que c'est Barnabas qui a témoigné, qui a raconté comment, sur le chemin de Damas, Saul avait été rencontré par le Christ. Parce que il fallait briser la glace, n'est-ce pas? Et quand on a souffert par quelqu'un d'autre, parfois dans son corps, même le son de sa voix peut être problématique dans un premier temps. Vous comprenez? Barnabas était un homme qui savait jeter des ponts dans l'Église, qui avait cette perception en même temps que ce bon sens, et dit, mais tu sais Saul, si jamais tu prends la parole, tout de suite il y en a qui vont être raides comme ça. Parce que tout le passé est encore là, dans leur tête. Mais laisse-moi préparer le terrain. Et après, tu pourras parler. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a alors été accepté, reçu, et il a commencé à pouvoir témoigner. Et puis il a dû, là encore, fuir avec le concours de l'Église, parce que son témoignage avait du mal à passer. Ce n'était pas encore l'heure de Dieu pour certains aspects. Mais bien aimé, quel était le problème de l'Église de Jérusalem? C'est que leur système de pensée était sclérosé, ils s'étaient arrêtés dans leur jugement à ce qui existait 3 ans auparavant. Vous n'avez pas remarqué que c'est ce qu'on fait? Cette manière dont nous suspendons notre jugement dans le mauvais sens, nous l'arrêtons. Le film passe et subitement, arrêt sur image. Il est comme ça. Une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 10 années, 20 années passent. Pour nous, il est toujours comme ça. Et le problème, c'est que nous oublions que les autres changent comme nous changeons. On change en bien, on change en mal. Et c'est dans les deux sens qu'il faut que notre évaluation en pensée évolue. Pour les uns, ça va remettre en question notre mauvais jugement, parce que la grâce de Dieu sera intervenue entre-temps. Pour d'autres, ça va remettre en question notre bonne évaluation du passé, de ce frère en Christ, cette sœur en Christ, de cet ami qui a été à un moment donné précis de notre vie, le don précieux de Dieu pour notre orientation, pour notre nouvelle naissance, que nous chérissons de notre cœur. Et quand un jour, 3 ans plus tard, quelqu'un ose nous dire « Mais tu sais, ce frère est rétrograde. Oh, comment oses-tu parler de ce frère qui m'a amené à Jésus-Christ? Comment oses-tu parler de ce serviteur qui a écrit le livre qui m'a permis de sortir de telle situation difficile ?» Eh oui, et pourtant, un système de pensée fondé sur les Écritures qui soit souple, souple, jusqu'à la fin de nos vies ici-bas, mes amis. Qu'il soit souple, bien sûr, dans le cadre de ce que dit la parole de Dieu. Donc cela, vous allez le trouver dans ce livre de Barnabas, et puis vous trouverez dans le découragement et chemin pour en sortir, la sclérose dans le domaine des pensées, au sein de la dépression spirituelle, du découragement d'Élie. Parce qu'un des gros problèmes d'Élie, manifestement, il est incontournable à proche lecture d'un roi 19 et des chapitres précédents, c'est que Élie vivait dans une fixité de ses pensées dans certains domaines. Au point même que quand il arrive dans la montagne du Sinaï, Dieu l'interpelle et dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et lui, il répond, je suis resté moi seul, etc., etc., n'est-ce pas? Alors Dieu lui accorde gratuitement un spectacle extraordinaire, un son et lumière en plusieurs tableaux. Il se présente à lui, et il se présente à lui de manière à pulvériser le système de pensée qui est attaché à sa personnalité et à son ministère à l'époque où il vit. En lui montrant qu'il faut être souple, même dans une période difficile au sein d'Israël. Et une fois que le tremblement de terre est passé, que le vent violent est passé, que le feu est passé, et que finalement il y a ce son subtil, style de silence qui est intervenu. Alors, Élie, il avait l'habitude des tremblements de terre, des vents violents et du feu. C'était le prophète de feu. Le son subtil du silence de l'amour de Dieu, du doigté de Dieu. Ça, c'était un langage qu'il avait beaucoup de peine à accepter. Eh bien, mes bien-aimés, et je tenais à le dire, une fois que le son et lumière aussi extraordinaires que cela, de la part de Dieu lui-même, étaient passés, Dieu repose la question à Élie. Élie, que fais-tu ici? Les mêmes mots, hein? Et que fait Élie? Il dit exactement les mêmes paroles qu'il avait dit au moment où il est arrivé au mont Sinaï. Et en hébreu, vous avez exactement le même nombre de mots hébreux dans les deux fois, n'est-ce pas, les deux textes d'un roi 19 où il dit à Dieu la raison de son état. C'est-à-dire que même ce travail de Dieu était encore insuffisant tellement ses pensées étaient fixées sur quelque chose qui d'ailleurs n'était pas tout à fait juste. Et ça avait déjà commencé au chapitre 18, sur le sommet du Carmel. Alors cela vous le trouverez, mais je tenais simplement, pardonnez-moi d'avoir pris un peu plus de temps, je suis sûr que mon arc-en-ciel pourra quand même parler, mais je tenais quand même à vous donner des illustrations, sans les développer, vous les trouverez développées dans mon livre. J'ai ici, chers amis, une petite enveloppe. J'ose à peine vous en montrer le contenu. Elle correspond à une dernière illustration comme conclusion à cette partie. Imaginez que la commission Dieselflow qui gère et organise tout ce que nous vivons au fil de l'année ici se soit réunie pour dire, bon, qui pourrions-nous inviter pour tel cours durant l'été prochain? Et l'un des membres de la commission, autour de cette table, de dire, écoutez, nous pourrions inviter Maurice Decker. Les autres membres regardent celui qui a osé prononcer ce nom et ce prénom avec des yeux tout ronds, disant, mais qui est cet individu dont tu nous donnes le nom et le prénom? Nous ne le connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Peux-tu nous donner quelques éléments qui nous permettent de nous prononcer? Et il réfléchit un moment, puis au bout d'un moment, il a une idée lumineuse. Il va donc fouiller dans une de ses poches. Il dit, vous savez, Maurice Decker est un ami tellement proche qu'il fait partie de ceux dont j'ai la photo dans mon portefeuille. Et il sort une photo d'une enveloppe et il passe la photo au membre le plus proche en disant, écoutez, faites passer. Ah, vous voyez, ça c'est important. Dans certaines églises, je dis, pourquoi vous ne venez pas à l'avant, hein? Vous avez vu? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est écrit en dessous? Même en vous levant, n'ayez pas peur de vous lever et de dire ce qui est écrit en dessous. Merci, est-ce que je peux l'avoir? Elle est trop précieuse. J'ai 9 mois. 9 mois, je suis dans une cuvette, dans un évier. On peut me reconnaître, mes amis. Oh, je ne sais pas si elle a eu le temps de bien voir. On peut me reconnaître parce que j'avais déjà des oreilles extraordinaires à cette époque. Est-ce que vous comprenez le sens de cette illustration? Oui, mais j'ai grandi après. Mais c'est si facile dans nos relations les uns avec les autres d'avoir des attitudes de ce genre. Où nous sommes restés fixés dans le passé. Et à cause de ça, nous n'arrivons pas à aller vers quelqu'un. Pardonner, demander pardon, régler un problème, communiquer, partager, collaborer. Alors que Dieu soit notre force. Allons à la croix. Et repentons-nous dans ce domaine aussi. Nous voulons prier. Merci. Merci Seigneur encore. Oh, simplement, il y aurait tant d'autres choses à partager, mais je crois que tu as voulu que l'essentiel, si elle soit dit. Merci pour cette invitation quasi suppliante de ton esprit à nos cœurs de ne pas nous installer dans ces ornières de pensée tellement destructrices pour nous-mêmes, mais pour tant d'autres autour de nous. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu ne veux pas de notre passivité, mais tu désires notre activité, un travail spirituel sur nous-mêmes, par le Saint-Esprit, avec la collaboration de toutes sortes de moyens de grâce, sur la base de ta parole, avec des bien-aimés comme Barnabas aussi, pour nous aider. Seigneur, merci de nous aider afin que ce soit de plus en plus ta pensée qui prenne le relais, qui supplante, qui efface nos systèmes de pensée. Merci d'appliquer cela à notre vie pratique maintenant. Et bénis la suite de cette journée, en particulier aussi l'intervention de ma chère épouse, dans le nom de Jésus. Amen.